Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Allez, on va voir un peu ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire ce matin. Donc on va prendre comme base de notre partage ce matin la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3. Et nous commencerons par le verset 2. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 2. Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs connus, élus de tous les hommes, car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Voilà, je voudrais qu'on puisse ensemble partager ce passage de que Paul a écrit aux Corinthiens, un passage plein de bonnes choses, un passage qui va peut-être aussi nous interpeller ce matin. Ce que j'aimerais plutôt voir avec vous, c'est les versets 4 jusqu'au verset 6. J'ai voulu vous lire tout ce qu'il y avait avant et après pour que nous comprenions ce qui va être dit au verset 4 et 6. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Répétez avec moi, notre capacité vient de Dieu. On est d'accord que notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul commence à dire, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Voilà déjà une déclaration de l'apôtre Paul que nous pouvons nous approprier. Avons-nous confiance dans le Seigneur? Avons-nous confiance que l'œuvre que Dieu a commencée avec nous, certainement, il l'achèvera? Vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord que le Christ va jusqu'au bout de son amour envers nous et qu'il ira jusqu'au bout pour nous transformer de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit à son image. Amen. Tel il est, dit l'Écriture, tel nous serons. Amen. Et c'est pas que nous allons ressembler comme deux gouttes d'eau au Seigneur. Hein, il n'a pas fait des jumeaux, le Seigneur, mais il a fait en sorte que nous le ressemblions dans toutes les qualités qu'il a dans son cœur en tant que fils de Dieu. L'Esprit de Dieu nous transforme pour mettre en nous tout ce qui est du Seigneur Jésus, c'est-à-dire sa bonté, sa patience, sa miséricorde, ce qu'on appelle dans l'Écriture le fruit de l'Esprit Saint. Amen. Et nous pouvons mesurer notre avancement avec le Seigneur par les fruits que nous portons. Amen. Nous reconnaissons un arbre à son fruit. Donc, nous avons cette assurance devant Dieu. Paul dit, nous avons une telle confiance. Avoir une telle confiance par le Christ envers Dieu provient d'une foi que rien ne saurait déstabiliser. Avoir confiance. C'est, quand tu as confiance en quelque chose, on pourrait te dire n'importe quoi, hein, tu n'écouterais pas, parce que tu sais que ta conviction est tellement profonde que rien ne pourrait t'ébranler. Amen. Et quand nous avons vécu dans nos vies d'enfants de Dieu des expériences dans lesquelles nous en avons tiré une quintessence de la part de Dieu, tu pourras venir me raconter tout ce que tu voudras, j'aurai une telle foi dans ce que j'aurai vécu que je ne bougerai pas, je ne brancherai pas, je ne chancellerai point. Amen. Nous avons une telle confiance. Avoir une telle confiance dans le Christ envers Dieu provient, nous disons, d'une foi que rien ne pourrait déstabiliser. Une foi confiante, une foi obéissante, une foi ancrée dans une espérance inébranlable au Christ ressuscité. Une foi qui nous mène toujours en triomphe dans le Seigneur, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est mettre son cœur et son esprit dans les promesses de Dieu. Ça veut dire que cette confiance qui est établie en nous va nous donner cette assurance que tout ce que Jésus nous a dit s'accomplira. Et particulièrement dans les temps de la fin, cette confiance que nous avons, cette chose qui est authentique dans nos cœurs, que rien ne pourrait venir nous ébranler dans ce sens, c'est que nous serons enlevés avec le Seigneur dans les airs. Ça, c'est une... Frères et sœurs, c'est l'espérance de toute vie chrétienne. Tout chrétien doit avoir en perspective l'enlèvement. Il se préparait. Et la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? On est prêt ou on s'apprête? Nous devons être prêts à n'importe quel... Parce que je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est que ce soit l'enlèvement ou pas l'enlèvement, il faut que nous soyons toujours prêts. Si le Seigneur prend ma vie aujourd'hui, il faut que je sois prêt. S'il veut m'enlever, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Mais s'il veut m'enlever aujourd'hui, il faut que je sois prêt. Ça veut dire être prêt, que mon cœur ne soit pas éloigné du Seigneur, mais tout proche de son cœur. Que quand je vais me présenter devant lui, il ne me dise pas, je ne te connais pas. Pourtant, Seigneur, tu te rappelles? Voilà. J'ai agité le drapeau. Tu te rappelles, Seigneur? J'ai imposé les mains aux malades. Tu te rappelles, Seigneur? Tu vas faire rappeler quelque chose au Seigneur, toi? Il se rappelle bien de toi et de moi. Il sait très bien la manière dont nous marchons. Surtout, il connaît le fond de nos cœurs. Car là où est ton cœur, normalement, là est ton trésor. La confiance vient d'un sentiment de profonde sécurité qui est engendré par la foi en la parole immuable de Dieu. La confiance vient d'un sentiment profond de sécurité. Ça veut dire que rien ne peut m'arriver. Même s'il m'arrive quelque chose, j'ai une telle confiance en Dieu que je sais que je surmonterai le mal par le bien. J'ai une telle confiance en Dieu. Une telle confiance en Dieu que rien ne peut m'arriver. Car je sais que s'il m'arrive quelque chose, c'est permis par Dieu. Donc, même les situations les plus difficiles, les plus critiques, je ne vais pas dire Dieu a permis. Nous disons, c'est le diable qui m'attaque. Mais Dieu permet peut-être que l'ennemi te touche. Mais en tout cas, c'est Dieu à l'origine. Ce n'est pas le diable. Parce que le diable, il est limité. Le diable, il est sous les pieds de Jésus. Amen. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il en a fait un marchepied de ses pieds. Et je rends gloire au Seigneur pour sa victoire à Golgotha. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Même les petits démons qui te font peur, ils te font peur parce que, au lieu de les regarder, tu lui ferais pas mal de regarder au Seigneur. On a une telle doctrine dans les dernières décennies concernant les choses du royaume des ténèbres que les gens ont été focalisés plus sur l'action du diable que sur la gloire de Jésus qui règne. Oui, je sais de quoi je parle. On a donné une importance à l'ennemi comme pouvant nous toucher de telle façon qu'il pourrait faire. Ce n'est pas vrai. D'abord, je vous rappelle que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas et il se garde lui-même et le malin ne le... Non mais j'entends rien, n'est-ce pas? Mais encore. Est-ce que la parole de Dieu est vérité? Est-ce que ce que nous venons de dire et confesser dans notre bouche est une réalité dans le royaume de Dieu? Mais bien sûr. Mais bien sûr, frères et sœurs, c'est une réalité tellement puissante. Satan va dire à l'Éternel, « Oh, tu sais, avec Job, tu as mis une clôture autour de lui. » Ça veut dire tu l'as entouré de ta bonté, tu le gardes. Mais laisse que je rentre un peu, que je le touche, tu vas voir. Ça veut dire que nous sommes entourés de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais chaque fois que nous sortons en dehors de la volonté de Dieu, comme dit l'Ecclésiaste, que derrière une haie, il y a toujours un serpent qui mord. Chaque fois que tu sors en dehors de la volonté de Dieu, attends-toi à ce que l'ennemi se manifeste. Mais si tu demeures dans la volonté de Dieu, alors là, je peux t'assurer que l'ennemi, il ne peut rien avec toi. Dis-le, il ne peut rien avec moi chaque fois que je demeure dans la volonté du Père. Alors là, on est bien d'accord, on a posé le problème, le problème étant bien posé, on va pouvoir continuer. La confiance vient donc d'un sentiment profond de sécurité qui est engendré par la foi en la parole immuable de Dieu. Pierre nous dit, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Vous trouvez ça dans 1 Pierre 1 et verset 5. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Et maintenant, écoutez bien ce qui est écrit là. C'est tellement important, tellement important. Écoutez, ici, c'est que le verbe garder, il a une consonance particulière dans le texte original. Notre version française ne va pas rendre réellement ce que contient le mot dans le texte original. Ce mot garder, en grec, c'est le mot froureo. Froureo veut dire garder, protégé par une garde militaire. Alléluia. Alors là, déjà, je peux vous dire ce matin que nous sommes gardés par les anges. Par le moyen de la foi, par la puissance de Dieu. Dieu met les anges autour de nous. Eh bien oui, ne sont-ils pas des esprits administrateurs en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Dieu a déployé son armée céleste autour de nous. Nous avons chacun nos anges. Et oui, nous avons nos anges. Ils nous gardent. Combien de fois ils nous ont évité pas mal d'ennuis? Combien de fois? Oui, nous sommes gardés par une garde militaire, que ce soit, dit le mot, en question garder, que ce soit pour nous prévenir d'une invasion hostile. Amen. Vous comprenez bien, hein? Ils nous gardent pour nous préserver d'une invasion hostile. Quelle est l'hostilité? Quelle est l'hostilité? Parce que chaque fois que nous allons et nous sortons en dehors de la volonté de Dieu, je disais dans la parabole des 10 vierges que nous avions le collier du Saint-Esprit autour de nous et que chaque fois que nous passions dans un chemin qui n'était pas glorieux pour Dieu, l'Esprit de Dieu nous tirait un petit peu comme on tire un chien pour le remettre sur le droit chemin et puis nous remettait dans le droit chemin. L'Esprit de Dieu ne veut pas que nous nous perdions. Amen. C'est pour ça que nous devons aimer le Saint-Esprit. Il s'est comme une bride d'amour autour de nos coups, hein. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une intention pas très catholique, pardonnez-moi, une intention pas très bonne, alors l'Esprit de Dieu me tire un peu en disant non, prends ce chemin-là, c'est bien mieux. Parce que David disait ceci chaque matin, il disait ô Éternel, enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît et que ton bon esprit me conduise sur un chemin de droiture. Amen. C'est ma prière de chaque matin dans ma vie. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Ainsi, nous sommes gardés d'une manière militaire pour prévenir une invasion hostile, mais aussi gardés, veillés, pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. Ça veut dire que ce mot garder, c'est aussi la préservation de l'esprit en vue de notre salut. C'est la préservation du Saint-Esprit en vue de notre salut. Prévenir, garder veillé pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. Ça, c'est le mot qui dit ça. Mais moi, je vous dis que l'Esprit de Dieu nous garde et nous préserve en vue du salut. Alléluia! Mais je me réjouis de savoir que le Saint-Esprit me garde en vue du salut qui m'a été accordé en Christ et qui me conduit jusque dans la voie nouvelle et vivante que Jésus nous a ouverte. L'Esprit nous amène au Père. Amen, amen. Oui, l'Esprit nous amène au Père, parce que c'est l'Esprit qui est l'intermédiaire entre le Père et le Fils. Quand le Père a décidé de tirer une âme au Fils, c'est l'Esprit de Dieu qui va l'amener à Jésus. Alléluia. Tu as compris ça? Ils travaillent ensemble. Ah, ils sont solidaires, ils sont un. Quelle grâce, quelle grâce. De là jaillit cette confiance que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Car, dit le psaume 121, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Alors je dis ce matin, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde son Église. Ça veut dire l'Église, c'est toi et c'est moi. Nous avons individuellement la protection du Seigneur sur nos vies. Et je suis persuadé que quand nous serons rentrés dans le royaume, le Seigneur nous montrera dans sa bonté chaque fois où il nous a évité de graves problèmes. Alors, Paul dit, nous avons une telle confiance en Christ envers Dieu. Ah oui, bien sûr qu'on peut avoir confiance dans le Christ. Vous croyez que Christ a versé son sang pour nous racheter, pour nous perdre en route? Jamais de la vie. Il a versé son sang pour t'amener jusqu'au but. Et le but, c'est que tu rentres dans le royaume de Dieu. Et le but, c'est que tu aies part à l'héritage. Et le but, c'est que tu aies une place là-bas en haut. Et le but, c'est que tu vois sa gloire dès avant la fondation du monde. La gloire qu'il avait auprès du Père, après qu'il soit descendu et qu'il soit venu dans son humanité, Jésus a dit au Père, moi, là où je suis, je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Or, le désir du cœur de Jésus, c'est que l'Église voie la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Et en voyant cette gloire, nous allons être sublimé, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais nous allons, et bien comme les anciens, jeter nos couronnes à ses pieds et l'adorer. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde son peuple. Et bien après, Paul, après avoir déclaré cette confiance qu'il a dans le Christ envers Dieu, Paul va dire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va nous dire ceci, qu'il qu'il n'est pas capable, par lui-même, de penser quelque chose comme de lui-même. Écoutez-moi bien, ça c'est quelque chose de tellement fort qu'il dit Paul, que moi ça m'a interpellé, beaucoup interpellé. Paul dit, il ne se fait aucune illusion sur lui-même. Je te dis ce matin, ne te fais aucune illusion sur toi-même, dans ta personnalité, dans ta chair, ne te fais aucune illusion. Parce que te faire une illusion, c'est être dans l'illusion. Et je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Paul dit non. Paul ne se fait pas d'illusion sur lui-même, il reconnaît la transcendance de Dieu sur sa vie. Et il va nous dire quelque part dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 10, il va dire ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Amen. Par la grâce de Dieu. Il se fait aucune illusion de lui-même. Il a payé le prix très fort pour reconnaître qu'il était un homme pas très recommandable. Il va le dire à un moment donné dans une de ses épîtres, qu'il persécutait, qu'il était blasphémateur, qu'il était... Pourquoi ? Il était blasphémateur, alors qu'il était l'érudit de la loi. Frères et sœurs, on peut être religieux et être blasphémateur des choses de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Frères, sœurs, cela nous enlève toute prétention à ce que nous prétendons être dans le Seigneur, nous sommes que des serviteurs inutiles accomplissant la volonté parfaite de Dieu. Donc, tes talents, on va en parler, hein, parce que là encore, Paul va nous dire des choses. Ce que je suis dans le Seigneur aujourd'hui en tant que serviteur ou chacun d'entre vous, ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Il faut être clair. Ce que tu es aujourd'hui, par la nouvelle naissance, c'est que ce que Dieu a fait de toi, et ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Il faut que tu remettes les choses à sa place. Hein? C'est pas parce que tu connais la Bible de A à Z. C'est pas parce que... Non. Tout vient du Père des Lumières. Tout don parfait, dit l'Écriture, vient du Père des Lumières. Et il n'y a rien en nous qui soit valable pour servir Dieu. Rien de rien. Rien. Si ce n'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc, ne cherchez pas à croire que vous êtes quelque chose ou quelqu'un. Parce que un joue bien de la guitare, l'autre joue bien du piano, l'autre prêche bien, l'autre est là. Non. Tout cela vient de Dieu. Paul reconnaît que sa capacité vient de Dieu. Alors, après le verset 3, il dit, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Alors, il met les choses au clair. Tous les frères et sœurs qui sont ici, et s'il y avait toute l'Église réunie, je dirais, toutes vos capacités viennent du Dieu très haut. Il n'y a rien qui puisse servir dans notre nature charnelle le royaume de Dieu. Il n'y a rien dans la chair qui puisse servir le spirituel. Même si nous sommes dans la chair, Jésus ne voit pas ce que nous sommes. Il voit son esprit en nous. Le reste a été déjà crucifié à la croix. Nous sommes morts, morts crucifiés avec Christ pour vivre dans la nouvelle vie que Jésus nous a accordée. Gloire à son Saint-Nom. Parce que sans l'œuvre de la croix, ni vous ni moi, ce matin, serions là. Paul reconnaît que sa capacité vient de Dieu, car les capacités religieuses de Paul dans la loi de Moïse l'ont amené à quoi faire ? À persécuter les enfants de Dieu. Ah voilà ! Les capacités qu'il avait dans la loi de Moïse, sans l'Esprit de Dieu, comprenez? Sans l'Esprit de Dieu. C'était un érudit. Il y a des gens qui sont des théologiens, qui sont capables de vous prendre la parole, de tout vous expliquer de la parole, avec la cabeça, avec la tête, avec, mais sans l'Esprit. Et alors, Paul il dira, mais l'Esprit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Et voilà le secret. C'est que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. 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 Alors, Paul va dire, oui, notre capacité vient de Dieu. Parce que lui, avec toutes les capacités qu'il avait acquises au pied de Gamaliel, il était persécuteur des enfants de Dieu, de l'héritage de Christ. Il persécutait l'héritage de Christ. Et si Paul persécutait l'héritage de Christ, c'est comme s'il persécutait le Seigneur lui-même. C'est pour ça que sur le chemin de l'Abraham, il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Jésus dit ça, vous croyez que Jésus disait, tu me persécutes? Oui, indirectement, il persécutait le Seigneur. Mais il persécutait tous les enfants de Dieu qui étaient dans le Christ. C'est pour ça que Jésus, il prend ça à son compte en disant, pourquoi me persécutes-tu? Sous-entendu, pourquoi persécutes-tu tous ceux qui m'appartiennent? Les capacités que Dieu nous a communiquées nous ont rendus propres à accomplir notre service dans le Christ. Ce n'est pas que nous soyons quelque chose ou que nous soyons capables d'avoir un juste regard sur nous-mêmes. Regardez bien. En réalité, ce que nous le sommes par la grâce bénissante du Seigneur. Notre regard naturel entaché par le péché déforme la vision de qui nous sommes réellement. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, vous avez la vue trouble. Quand vous vous regardez déformé parce qu'encore votre regard il est entaché de péché. C'est pas que nous péchons. Mais c'est notre nature pécheresse. J'aime bien ce que l'Esprit de Dieu m'a amené à écrire ici. Notre regard naturel, entaché par le péché, déforme la vision de qui nous sommes réellement. Nous pourrions donc maintenant traduire ce passage. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette capacité qui vient de Dieu nous a été transmise par pure grâce pour que nous soyons et pour que nous puissions servir le Seigneur. Et nous arrivons maintenant à nos capacités que Dieu nous a accordées. Qu'est-ce que nous en faisons? Vous allez voir. Il y a dans l'Écriture des choses qui sont très claires. J'aimerais partager ces choses avec vous parce que je me sens aussi concerné dans ces choses-là. Ces capacités sont les qualifications que Dieu nous a confiées pour nous rendre propres au service. Il est ici question d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Alors là, frères et sœurs, pour que nous puissions exercer les capacités qui viennent de Dieu, c'est obligé, mais obligé, d'être rempli du Saint, du quoi? Du Saint quoi? Du Saint-Esprit. Obligé. Tu ne peux pas servir Dieu autrement que comme cela. Donc nous devons rappeler cette chose à l'Église et ces trois colonnes qui nous permettent de savoir que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc je remets les choses en place. Ce n'est pas les dons que tu as, c'est pas parce que tu parles en langue, c'est pas parce que tu as un certain discernement que pour autant tu es rempli de l'Esprit. J'ai trop vu dans l'Église du Seigneur des gens qui ont pratiqué les dons avec la chair et non pas avec l'esprit. Et je vais vous dire pourquoi on peut avoir un tel discernement. C'est que l'esprit de Dieu, quand il te remplit, il va pas te remplir de choses qui vont t'amener à manifester. Ça, c'est la manifestation des dons, c'est une chose. Mais être rempli en est une autre. C'est parce que tu es rempli que tu vas manifester. Alors, vous voyez l'ordre, hein? C'est parce que je suis rempli de l'Esprit que je vais manifester les dons. Mais je ne peux pas manifester les dons si je ne suis pas rempli de l'Esprit Saint. Et si je suis rempli de l'Esprit Saint, je suis rempli de trois choses. D'intelligence, de sagesse et de connaissance. Regardez, l'intelligence, c'est trois colonnes que le Saint-Esprit va poser en nous. Ce sont des colonnes qui viennent de Dieu lui-même. L'intelligence, c'est cette intelligence qui vient de Bina, le Fils de Dieu. Parce qu'en hébreu, c'est très clair. L'intelligence, c'est Bina, et Bina, c'est Ben, et Ya, ça veut dire Fils de Dieu. L'intelligence que nous recevons, c'est l'intelligence que Jésus a et qui nous communique à nous. Et vous dites Amen. Nous sommes intelligents dans le véritable, dit Jean. Voyez-vous, la parole de Dieu, quand nous prêchons, la parole elle vient tout de suite pour attester, confirmer toujours ce que nous sommes en train de dire. La sagesse, elle vient d'en haut. La connaissance et la compréhension, c'est l'esprit qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre. Ça veut dire que si tu veux pratiquer les dons, il faut que tu les pratiques avec ça et avec un thé et aussi avec connaît, alors vous voyez, s'il n'y a pas la sagesse, s'il n'y a pas l'intelligence, s'il n'y a pas la connaissance, si tu veux exercer les dons, tu vas faire une catastrophe. On a tous, dans nos églises pentecôtisantes, le but, c'était les dons. Par exemple, on avait vu de telles aberrations où nous avions entendu, il y a 25 ans en arrière, si tu ne parles pas en langue, t'es pas sauvé. Voilà. Voilà une bourricrie, une ânerie doctrinale, la plus grande qui soit. C'est pas le parler en langue qui te sauve, mais bel et bien Jésus, et le sang de Jésus qui te lave et qui te purifie. Donc vous voyez déjà cette espèce de déformation qui te dirait, c'est parce que tu ne parles pas en langue, t'es pas sauvé. Mais attendez, moi je vois dans l'écriture beaucoup de gens qui ont été sauvés, qui n'ont jamais parlé en langue. Oui ou non? Ben oui. Ben oui. Si le Saint-Esprit veut te faire parler en langue, gloire à Dieu. Mais au moins, donne l'interprétation après. Mais si tu veux, le Saint-Esprit veut te donner une prophétie, et c'est là où tu as besoin d'être rempli de l'Esprit, d'avoir de l'intelligence et de la sagesse pour donner la prophétie, pour ne pas faire un scandale dans l'Église. Oui ou non? Ben voilà. Donc, toutes ces choses dépendent de ces trois colonnes qui nous sont accordées par le Seigneur quand il nous remplit de l'Esprit. Je voulais poser encore ce fondement ce matin pour que nous comprenions bien ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit que nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Ok, Dieu le fait. Il nous donne ces trois colonnes. Mais ensuite, à nous de continuer les exercices spirituels qui sont nécessaires pour être constamment remplis de l'Esprit. Et Paul va nous dire, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit, comment? Eh bien, en vous édifiant les uns les autres, en chantant des cantiques spirituels, il va le dire dans les Éphésiens. Il y a ce qu'on appelle des exercices spirituels qui nous permettent de maintenir toujours le niveau de la plénitude de l'Esprit en nous. Et chacun a reçu selon sa propre capacité. Alléluia. Jamais le Seigneur te donnera quelque chose que tu ne puisses pas porter. Il te donnera toujours quelque chose que tu pourras porter dans ta vie. Il te mettra pas une lourde charge sur ton dos. D'ailleurs, regardez bien, il est dit dans Matthieu 25, qui est la suite de la parabole du 10 vierges, il va lui confier 5 talents. C'est beaucoup, 5 talents. Vous avez compris ce que ça voulait dire, les 5 talents? Ça peut dire aussi les talents que tu peux mettre au service de l'Église. Mais dans le cas d'espèce, un talent, vous savez ce que c'est un talent? À deux périodes d'Israël, un talent c'était 45 kilos d'or ou 90 kilos d'or par la suite. Cinq. Jésus en a confié beaucoup à certains. Hein, parce qu'il sait que tu es capable de porter cette chose et de la faire fructifier. Comment ça se fait que tu reçois des talents et que tu ne les fais pas fructifier? Comment ça se fait que Dieu t'a donné des talents et que tu ne les fais pas fructifier? J'ai entendu beaucoup au cours de ma vie, dans l'exercice du service, j'ai entendu beaucoup de frères, je ne sais pas à quoi j'étais appelé. Mais mon frère, ma soeur, si tu en es là, pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas la réponse? Parce que l'appel de Dieu dans ta vie, l'appel au salut, obligatoirement va te mener à une position de témoignage, une position de, comme dit Paul, vous avez reçu le ministère de la réconciliation, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Regardez ce à quoi nous avons établi. C'est pas énorme tout ça? C'est pas, et puis allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire l'appel? L'appel, tu veux dire tu es derrière la chair? Tu crois que c'est que ça l'appel? Non. Pas du tout. Pas du tout. Paul dit que être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose qui nous est nécessaire pour pouvoir gérer, voilà le mot, gérer les capacités que Dieu nous a données. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le gérer avec le Saint-Esprit. Ou plutôt, le Saint-Esprit le gère avec nous. Amen. Comme ça, nous, on n'a rien à voir. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire ça en nous. Regardez, Matthieu 25 va dire ceci en versets 15 à 29. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Dieu nous a fait des dons, des cadeaux. Dieu nous a confié quoi? L'Église. Mais l'Église, c'est toi et c'est moi. Et le Seigneur nous a confié des biens à chacun d'entre nous pour les faire prospérer. L'Église doit prospérer. L'Église, elle n'est pas l'apanage d'une seule personne, d'un pasteur. L'Église, c'est la responsabilité de tous. Mais on a tellement une notion qui n'est pas encore extirpée des vies, cette notion du catholicisme, n'est-ce pas, avec le prêtre et le pape au bout et la pyramide, que voilà, dans nos églises évangéliques, on a retraduit le même système, mais en disant, mais on s'est affranchi de tout le fratras religieux, mais on a fait la même organisation. L'organisation religieuse, elle est pyramidale. L'organisation de l'Église de Christ, elle est horizontale. Il s'en alla, nous a dit, l'Écriture, hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2 talents, à un autre 1, chacun selon sa propre capacité. Frères et sœurs, mais moi, je suis étonné quand je lis ces choses. Parce que il n'y a rien de trop dur pour nous. Si le Seigneur nous a donné des capacités, c'est qu'il savait très bien qu'on pouvait les gérer avec son aide. Bon, à l'un cela, à l'autre cela, à l'autre cela, selon la grâce de l'Esprit qui distribue selon sa volonté. Dieu sait très bien ce qu'il va nous confier. Et il nous le confie. Mais pas seulement il nous le confie, il nous le donne. Parce qu'il ne reprend pas ces choses-là. Il nous le donne. Et jusqu'au bout, nous sommes intendants des talents et des capacités que Dieu nous a confiées, nous devrons à un moment donné rendre compte de ces choses. Mes frères et sœurs, c'est pas des choses trop difficiles pour nous. Par exemple, je vois dans Romains 12 où l'apôtre Paul dit, mais que celui qui pratique l'hospitalité la pratique. Ça, c'est pas quelque chose qui est trop difficile pour nous, avoir le cœur ouvert à son prochain. Ce faisant, dit Paul, certains ont accueilli des anges chez eux, sans le savoir. L'hospitalité, si tu ouvres la porte de ta maison, c'est comme si tu ouvrais la porte de ton cœur. C'est pareil. Tu laisses la capacité que Dieu t'a donnée. Certains sont appelés à l'hospitalité, d'autres à présider, d'autres à gouverner, d'autres à édifier, d'autres à exhorter. Mais il faut. Dieu t'a confié des capacités. Il va te les réclamer. Qu'est-ce que tu diras? C'est la faute de mon pasteur? Il est dit, chacun selon sa propre capacité. Chacun, ça veut dire chacune aussi. Pourquoi l'Esprit de Dieu nous appelle ce matin à prendre conscience de ces choses? Ou nous les rappelle, en fait? C'est parce que nous avons tellement déformé la vision de l'Église, où l'Église a toujours été demandeuse, mais elle a très peu donné. L'Écriture dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais nous, on a fait l'inverse. On a rendu les brebis dépendantes de nos ministères. On les a mises sous notre coupe. Et en réalité, on les a tétanisées sur les chaises. Et c'est un état d'esprit maintenant qui est dans l'Église du Seigneur. Car il faut briser ces choses. On n'a pas le droit. Parce que tu le veuilles ou pas, le Seigneur te dit que c'est selon ta propre capacité. Il ne va pas te donner quelque chose que tu n'es pas capable de porter. Tu comprends bien cela? Et dans ton cœur, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur pour servir le Seigneur. Tu sais ce que tu aimerais faire. Il y a comme au fond de toi quelque chose que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie, dans l'Église. Être utile quelque part. Je ne sais pas, tu le sais moi. Moi je ne sais pas, mais le Seigneur le sait. Il a mis ça dans ton cœur. Les uns ont été appelés à être dans le ministère, d'autres qui ont été appelés à être des diacres, d'autres des anciens, puis peut-être des simples brebis, peut-être des personnes qu'on ne voit pas dans l'Église, mais qui prient dans leur maison, des intercesseurs, des intercesseuses, chacun selon sa propre capacité. Je ne peux pas faire ce que tu fais, et tu ne peux pas faire ce que je fais, parce que Dieu m'a donné une capacité à moi qu'il ne t'a pas donnée à toi. Il n'y a pas d'uniformisme dans l'Église du Seigneur. Il y a une diversité. Et la diversité, c'est ce qui donne une belle image de l'Église. Imaginez qu'on soit tous des pasteurs ici. Ça rimerait à rien. Ça rimerait à rien. Alors, à chacun selon sa propre capacité, et aussitôt ils sont là hors du pays. Jésus est remonté auprès du Père, il nous a envoyé l'Esprit, l'Esprit distribue les talents, les dons de grâce, chacun comme il lui plaît à lui, puis sachant à qui il va les donner, comment cette personne pourra gérer le talent, le don que Dieu va lui accorder. C'est ainsi que le Seigneur fait, parce qu'il ne te donnera pas ce que tu ne pourras pas gérer. Ça c'est clair. Alors, voilà ce qui va se passer. Or, celui qui avait reçu les saints talents s'en alla et les fit valoir. Il acquit 5 autres talents. Super. Tu as reçu des dons, tu les fais fructifier, ils vont grandir, ils vont prospérer, ils vont apporter du fruit. Alléluia. Et puis quand le Seigneur reviendra te demander, alors, qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai accordés? Le Seigneur sait très bien ce que nous en avons fait. Mais je viendrai avec joie lui dire, voilà Seigneur, voilà, tu m'as appelé à être comme ça, à être dans ce service. Ben voilà, tu sais aussi bien que moi ce que j'ai fait. Est-ce que tu es heureux de ton serviteur? Est-ce que tu es heureux de ta servante? Est-ce que ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait? Obligés par amour? Amen. Pas par devoir. Est-ce que c'est possible que le Seigneur nous demande ces choses? Oui, oui, oui. On est compte? 5 talents. Un talent, c'est, je crois que c'est 6 000 deniers. Et 6 000 deniers, et un talent, c'est environ 17 années de salaire pour un ouvrier. 5 talents, c'est toute une vie. Multiplié par 5 encore, imaginez. C'est beau, hein? Dieu va faire fructifier entre nos mains les dons de grâce qu'il nous a donnés. Croyez-vous que le Seigneur va nous laisser tomber en nous disant, voilà, tiens le talent, maintenant débrouille-toi avec. Mais non. Il va voir notre amour, il va voir notre fidélité, il va voir notre engagement, il va voir notre patience, il va voir toutes les bonnes choses que l'Esprit de Dieu a mis en nous, et il va nous aider. À un autre, il en a confié 2. Très bien, 2 talents, c'est bien. C'est 34 années de salaire. C'est 90 kilos d'or. Vous avez vu en ce moment comment la grosse arnaque de la publicité à la télévision? Envoyez-nous vos bijoux, ne vous déplacez pas, mettez dans l'enveloppe et vous voyez une femme qui sort. Ah, j'ai reçu 480 euros, j'ai reçu ça. Ils se font arnaquer. Parce que bientôt l'argent va s'écrouler, il n'y aura que l'or. Et aujourd'hui, ils rachètent l'or à bas prix, ils sont en train de se faire une fortune sur le dos des gens. Mais alors, ça y va, hein? À qui le médaillon de sa grand-mère ou la grand-mère de son beau-père? On en voit, hein. Je dis encore, je suis heureux. J'ai touché 200 euros. Non, mais voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc, celui qui avait 2 talents, nous est-il dit, lui aussi, il en a gagné 2 autres. Donc, il avait reçu selon sa capacité, il en a fait prospérer, il en a donné 2 plus 2 qu'il avait reçus, ça fait 4. Bien, Seigneur lui dit que c'est bien. C'est très bien ce qu'il a fait. Hein? Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, maître, tu m'as remis 5 talents et voici j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, écoutez bien, bon et fidèle esclave. Ah! Quand tu rapporteras les talents, qu'est-ce que te dira le Seigneur? Bon et fidèle serviteur. Je t'ai confié mes talents. Et tu les as fait prospérer. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur nous ait donné des talents? Pour nous. Pour que le royaume de Dieu avance. Faut pas se tromper. Hein? C'est pas pour que je sois un ministère 5 étoiles nouvelle norme. Non. Pour que le royaume de Dieu avance. Pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Pour qu'il y ait dans le royaume de Dieu, vous verrez, frères et sœurs, vous verrez le fruit, et le fruit de notre travail, nous le verrons en haut. Nous verrons toutes les âmes qui ont été sauvées par l'intermédiaire de notre témoignage, de notre service. Nous les verrons en eux, en haut. Dieu nous les montrera. Ça sera une couronne de gloire sur nos têtes. Amen. Alors on arrive au celui qui avait ses 5 talents, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je t'établirai sur... Ah, mais vous souvenez dans la parabole des mines et des talents? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à un moment donné? À un, je lui donnerai 5 villes à gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire? À l'autre 10 villes. Ça veut dire que quand nous reviendrons avec le Seigneur sur la terre pendant le millénium, nous participerons au gouvernement du Seigneur sur la terre avec lui. Le Seigneur nous donnera des choses à gérer avec lui sur la terre. Je t'établirai sur beaucoup de choses, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de bien grandes. T'es arrivé d'un jour d'être maire d'une ville au millénium, peut-être le Seigneur va te donner une région à gouverner pendant 1000 ans, hein. Ça sera bien, hein. Tu seras le nouveau fraîche du millénium. Il faut voir l'incidence qu'il y a derrière toutes ces choses, frères et sœurs, parce que c'est tellement, tellement puissant, les promesses sont tellement grandes. Hein, il va dire exactement, pour celui qui a les 2 talents, il va lui dire la même chose, qu'il a été bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de temps. Dieu t'établirait sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu entreras dans la joie du Seigneur. Tu rentreras dans la paix du Seigneur. Tu auras le sentiment dans ton cœur, quand tu te trouveras devant le Seigneur, que tu seras agréé de lui. Mais voilà que celui qui avait reçu un talent va devoir rendre des comptes. Celui qui avait reçu un talent vient aussi et dit, maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, recueillant là où tu n'as pas répandu, et craignant, je m'en suis allé, j'ai caché ton talent dans la terre. Voici que tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, mais méchant et paresseux esclave. Ah, il y en a qui ne veulent pas se bouger dans l'église du Seigneur. Il y en a qui ne veulent pas bouger. Ils se contentent d'une apparence de piété. Ils sont là, dans l'église du Seigneur, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Ils sont là. Ils se rassurent d'être là. Mais il n'y a aucune dynamique, aucun désir en eux de participer à la vie du royaume. Ils voudraient bien, mais ils sont coincés. Qu'est-ce qui les coince? Ben, ce partage dans le cœur entre la vie de chaque jour et le Seigneur. Ils pensent que on peut établir un planning dans lequel j'aurai une part de ma vie à faire ce que j'ai un peu... je désire faire ce que j'ai envie de faire, et puis une autre part que je dois consacrer au Seigneur. Cette attitude, elle est dramatique. C'est contraire déjà au premier commandement de Dieu, qui nous dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. En plus, c'est un leurre. Un leurre. Un leurre qui, en finalité, rendra la personne très malheureuse parce qu'elle s'apercevra qu'elle a très peu, très très peu de bénédictions de la part de Dieu. Même ce talent que la personne a reçu va lui être ôté et va être donné à ceux qui ont fait prospérer. Imaginez, frères et sœurs, ces personnes seront nues devant Dieu, nues au sens spirituel, je ne parle pas d'une nudité physique, hein, ce n'est pas ce dont je parle. Mais on n'a pas l'air de se rendre compte que vivre l'église du Seigneur, c'est un engagement dans le corps, et c'est une place dans le corps Et à cette place, nous devons travailler. Si mon corps, mes deux bras ne marchent pas, ou mes deux jambes ne marchent pas, mon corps va être limité. À cause de ces bras qui ne se meuvent pas dans la vie que le Seigneur a voulu donner. Et puis, c'est plus possible que l'Église puisse vivre sans la dynamique de l'ensemble de l'Église. C'est bien d'entendre les messages, c'est bien de venir entendre la louange, etc. Mais si ça s'arrête là, l'horizon est vraiment limité. Parce qu'il y a la dynamique qui nous met en mouvement. S'occuper des affaires du royaume, Jésus l'a dit à 12 ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que toi, dans ta vie de chaque jour, tu peux dire cette même parole, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Quelles sont les affaires de mon Père? Il faut que je prie pour mon frère là-bas. Il faut que je prie pour ma soeur là-bas. Il faut, non. C'est un désir dans le cœur. C'est pas une obligation. C'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à prier. Mais il faut que tu sois dans la disponibilité de ton cœur. Il faut que ton cœur soit ouvert constamment pendant toute la journée. Que tes pensées soient affectionnées aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Bien sûr qu'on a, on doit manger. Bien sûr qu'on doit aller faire des commissions et tout ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais mon esprit est toujours attaché au Seigneur. Il n'est pas mis dans les choses de la terre, dans les choses matérielles. Les choses matérielles nous séparent de Dieu. On peut se rassurer avec les choses de Dieu, mais les choses matérielles, c'est clair, nous séparent de Dieu. Les choses matérielles nous font rentrer dans une jouissance jamais satisfaite. Tu passeras d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre, et d'une chose à l'autre, et d'une chose à l'autre, et tu ne seras jamais satisfait. Tu voudras toujours jouir des choses pour ton bien-être personnel, mais il en reste au fond de toi une profonde insatisfaction. Un talent, tu n'es même pas capable, tu l'as enterré. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as enterré ton talent? Ça veut dire que ben, peut-être que dans l'église où tu es, ton talent, tu l'as jamais manifesté. Tu l'as mis sous le boisseau, alors que tu devrais l'exercer. Tu devrais faire en sorte que ton talent puisse prospérer, porter du fruit. Qu'on dise, tiens, par exemple, tel frère, eh ben, va vers lui, lui saura t'exhorter. Parce que tu auras reconnu le talent, parce que tu sauras que ce frère-là ou cette sœur-là est en capacité de t'apporter l'exhortation. Dieu l'a appelé, il a donné ce talent-là, va vers lui, mais tu l'auras reconnu. Si tu as reçu un talent selon ta capacité de la part de Dieu, je t'en prie, ne l'enterre pas, fais-le prospérer. Et alors, naturellement, comment faire prospérer un talent? On ne peut pas faire prospérer un talent si on n'est pas dans une église locale, au milieu des frères et des sœurs. Tous les chrétiens qui ne sont pas rattachés à une église et qui se font leur religion à la carte sont en dehors du plan de Dieu. Ils peuvent peut-être exhorter une personne comme ça, mais ils n'ont pas mis au service des biens du maître. Or, le bien du maître sur la terre, c'est l'église. Il n'y a pas autre chose comme bien sur la terre qui appartienne à Jésus. Cette église qu'il a bâtie au travers de son sang et son nom, qu'il a versé à la croix. C'est pour ça que ce matin, je suis pas heureux de savoir qu'il y a tellement de chrétiens, des chrétiens qui se disent être chrétiens, et qui se disent même peut-être être remplis de l'esprit, mais qui pourtant n'ont point de hâte pour critiquer et les anciens et les pasteurs, ou dans cette église c'est comme ça, ou de cette église, parce que ça leur correspond soi-disant pas. Mais mon frère, ma sœur, si tu veux un jour être une pierre lisse et bien ronde, il faut que tu te frottes à moi. Hein. Il faut que tu te frottes à lui, pour que nous nous arrondissions les uns les autres. Si tu es seul dans ton coin là-bas, tu vas te frotter avec qui? Avec le mur de ta maison? Alors qu'est-ce qu'il va le dire le Seigneur à ce serviteur? méchants et paresseux. Ah, paresseux, il y en a des paresseux dans l'église du Seigneur. Pour dynamiser l'église aujourd'hui, il faudrait peut-être une bombe, là, je sais pas. Ouais. Ça pète de partout, quoi. Les gens peuvent se réveiller, quoi. On se réveille, quoi. Il est question ici d'être intendant des dons de grâce que le Seigneur nous a confiés. Nous sommes en quelque sorte gestionnaires des biens qui nous ont été confiés. Faire grandir le royaume de Dieu au travers des talents que Dieu nous a confiés, tel en est le but. N'est-ce pas une grande grâce de Dieu que d'expérimenter les talents qui nous ont été distribués et les mettre au service du roi des rois? Si certains ont réalisé ce privilège d'avoir été ornés de capacités et de talents pour les mettre au service du royaume, et cela est un grand honneur qui nous a été attribué par pure grâce, d'autres, en revanche, ont préféré ne pas s'investir et mettre sous le boisseau leurs capacités par manque d'engagement envers Dieu et dans cette attitude qui fait que l'on est prêt à recevoir sans jamais rien donner en retour. Il est question ici de ne pas trop s'investir, car cela pourrait empiéter sur notre vie personnelle. Nous devons donc planifier nos vies en fonction de nous-mêmes et de Dieu. Quelle erreur funeste! Car il est bien question de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que tout nous sera accordé par-dessus. Nous remarquons aussi que ceux qui ont fait fructifier leurs talents étaient remplis de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Eh bien, le mot capacité aussi, en grec, il a cette notion de dynamis. Ça veut dire de puissance et de force. C'est une capacité qui nous rend fort, qui nous rend puissant dans le Seigneur. Dynamis, ça vient du mot dynamite. Ça vient aussi du mot dynamo. La dynamo, ça donne du courant. Hein. Le Saint-Esprit nous remplit de la dynamique du royaume des cieux. N'est-ce pas? Le mot dynamis veut dire force, puissance, talent, capacité. Nous pouvons considérer que cette capacité est appuyée par une puissance, et là intervient la puissance de l'Esprit Saint. Il en était ainsi à la Pentecôte et dans la suite des temps. Sans le secours de l'Esprit Saint, il serait insensé d'exercer nos talents sans cette onction qui nous qualifie. Seul le revêtement de puissance nous fera entrer dans une dynamique qui nous entraînera à exercer nos dons, nos talents, selon les capacités accordées par Dieu pour bâtir l'Église du Seigneur. Nous nous apercevons qu'en rentrant dans cette dynamique de l'Esprit, il y a abondance de talents. Cela fructifie. Nous devons reconnaître l'arbre aux fruits qu'il porte, c'est-à-dire toutes sortes de bons fruits. Étant les gardiens de ces talents, nous devons en prendre soin et les faire fructifier pour la plus grande gloire du Seigneur. Ceux qui pratiquent ces choses sont appelés fidèles par le Seigneur lui-même. Notre responsabilité est engagée, car ce qui nous a été confié descend du ciel. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Quelle joie devrions-nous avoir d'exercer les dons et les talents du royaume de Dieu. Nous sommes donc des intendants de Dieu en la matière. Alors, Paul va dire, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il ne saurait être question, pour vous et pour moi, d'exercer nos dons. Je ne parle pas de dons que nous mettrions au service de Dieu, des dons naturels. Par exemple, je prends un exemple. Il y a des personnes, je vais prendre l'exemple des musiciens. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Théo. Théo, avant de connaître le Seigneur, il avait des dons naturels pour la musique. Qu'est-ce que Dieu a fait une fois qu'il a été touché par la grâce? Dieu a pris ce don, il l'a épuré, il l'a purifié et il l'a mis à son service selon la propre capacité qu'avait Théo. Et aujourd'hui, il exerce ce don dans la capacité que Dieu lui a donnée et dans le talent que Dieu lui a confié. Et c'est ainsi qu'il est à sa place. Pour quoi faire? Eh bien, pour nous amener dans l'adoration. Mais chacun de nous, nous avons quelque chose. Chacun. Ne me dis pas que dans le monde même, tu avais des dons. Des dons qui étaient des dons naturels, qui n'étaient pas encore purifiés, mais il y avait des choses en toi, plus ou moins bonnes, que tu pouvais exercer. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse me dire, je ne sais pas quel don j'ai reçu de Dieu. Nous avons tous reçu quelque chose. C'est pour cela que ce matin, l'Esprit de Dieu nous met en garde en nous disant, attention, n'enterrez pas les talents que vous avez reçus, parce qu'au fond, ces talents que vous avez reçus, ça vient de Dieu, et Dieu les a donnés chacun selon sa propre capacité, à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à grandir, à prospérer dans ses dons. Et puis l'Écriture nous dit, nous reconnaîtrons l'arbre au fruit qu'il porte, n'est-ce pas? Je me souviens bien que le Seigneur, en passant devant un figuier, n'ayant pas vu de figue sur le figuier, il a maudit l'arbre parce que l'arbre ne portait pas de fruits. Faisons attention parce que là, celui qui n'a pas rapporté le talent, vous avez vu la fin? La fin n'était pas très 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 attrayante pour lui. Hein. Hein? Notre responsabilité est engagée car ce qui nous a été confié descend d'en haut, descend du ciel. C'est pareil que Luc, hein, et à Luc il dit la même chose dans Luc 13, mais d'une façon différente. Le Seigneur dit, qui est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de plaie. Bienheureux est cet esclave que ce maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave-là dit en son cœur, mon maître tarde à venir et qu'il se mette à battre les siens. Vous connaissez donc cette parabole? Eh bien, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Vous trouverez ça dans Luc 12, versets 42 à 48. C'est exactement pareil. Nous avons là des textes qui sont à peu près similaires, bien que certaines choses diffèrent un peu, mais le principe est le même. Tu as reçu des choses de la part de Dieu, exerce-les. N'enterre pas tes talents dans le diaconat, dans l'exercice de l'ancien, dans peut-être l'enseignement le don d'enseignement que tu as reçu, dans peut-être le ministère auquel Dieu t'appelle, pasteur ou peut-être prophète, je ne sais, ou Dieu le sait, mais en fait, on sait au fond de nos cœurs ce à quoi nous sommes appelés. Moi, je savais très bien que quand le Seigneur m'a appelé, tout de suite, j'ai eu un amour fou pour la parole. Je savais que le seul but de ma vie, c'était d'être enseignant dans la parole. Et j'y ai mis tout mon cœur. Je me suis investi dedans complètement. Alors que le Seigneur, il avait encore un projet à côté. Moi, je ne voulais jamais être pasteur. Ma femme est témoin. Mais le Seigneur m'a amené. Quand j'ai compris que le pasteur, dans l'Écriture, était pasteur et enseignant en même temps, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Parce que si je suis enseignant, peut-être le Seigneur va me former au pastorat. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le Seigneur faire. Je n'ai pas refusé. Je me suis investi dedans, je n'ai pas refusé. Et bien le Seigneur a fait ce qu'il a voulu avec moi. Il fera ce qu'il voudra avec vous si vous ne mettez pas de barrière. Au don et au talent que Dieu vous a confié. Je suis persuadé que chacun d'entre vous a reçu quelque chose de Dieu. Mais persuadé, ça ne peut pas être autrement. Sinon, le Seigneur ne l'aurait pas dit. Chacun a reçu quelque chose. Mais voilà, nous aurons à rendre compte, hein, à rendre compte des choses que le Seigneur nous a confiées. Hein. C'est pour ça que Paul va dire... Qu'il ne compte pas sur lui-même, n'est-ce pas, mais sa capacité vient de Dieu. Moi, je ne compte pas sur moi-même. Ma capacité vient de Dieu. Et chacun d'entre nous est comme ça. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous l'accorde. Amen. Que son nom soit béni.